toujours de la galère. Moi, j'ai une question pour Alexandre Manard, qui question un peu de B aussi. Vous avez parlé à la fin de votre exposé de, dans le cadre de l'éducationnalité, etc., de labellisation en fait de professionnelle, si j'ai bien compris, de le faire passer. Vous avez parlé de mentionner des éco-artisans, je ne sais pas quoi. Moi, il me semble que c'est quand même une grande différence, ou en tout cas, c'est, ça fait peut-être partie des choses qu'il faudrait que vous gardiez de plus près. On peut mettre des labels à des bâtiments, à des projets, à des écoquartiers, etc. Ça, c'est une chose. Mettre des labels à des artisans du bâtiment, c'est tout à fait autre chose. Pourquoi ces deux démarches se rejoignent, sont-elles totalement différentes? Comment certifier les uns les autres? Tout ça, c'est très cool. Ça commence à donner à réflexion.
Sur la deuxième intervention, mais qu'est-ce que...
On mélange tout.
Moi, j'ai beaucoup aimé la double approche économique. Donc, Vincent Renaud de l'INSA de Lyon. J'ai beaucoup aimé la double approche écologie industrielle, écologie politique. Dans le deuxième cas, il me semble que la critique dans l'écologie politique de l'innovation, elle est aussi en tant que... C'est-à-dire qu'on critique l'innovation aussi comme moteur de l'économie productiviste. Il y a aussi cette idée qui reprend Schumpeter que l'innovation, c'est ce qui permet perpétuellement d'ouvrir de nouveaux secteurs d'activité à l'État, d'avoir de nouvelles ressources fiscales, d'avoir de nouvelles branches, et donc finalement une perspective d'une nouvelle croissance en permanence qui se renouvelle. Et que dans ce cadre-là, avec ce renouvellement accéléré de l'offre en innovation technique, on a ce que disait Illich, les phénomènes de contre-productivité qui apparaissent. Il donne l'exemple de la voiture, moi que j'aime bien, en disant que, en fait, quand on regarde le temps qu'on passe à se payer la voiture, en vitesse généralisée, la voiture est très lente, parce qu'on passe beaucoup de temps à se payer. Donc il dit, dans ce cadre-là, un vélo est beaucoup plus rapide qu'une voiture, puisque c'est beaucoup plus rapide de se payer le vélo. Et je pense que dans la perspective de l'écologie politique, et même telle qu'elle se manifeste dans les années 70-80, dans des aménagements de temps, il y a vraiment cette idée que c'est une critique de l'innovation en tant que moteur de l'activité économique. Et donc de changer cette perspective, de passer d'une forme de politique de l'offre qui est qui s'ancre au 19e siècle avec un changement d'économie, mais qui trouve vraiment écho dans la division du travail dans les 30 Glorieuses, dans une croissance moderne qui explose. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une critique forte de l'innovation dans ce cadre-là. Voilà, je m'arrête.
Sinon, juste un petit point sur l'éco-PTZ et le fait qu'il n'y ait pas eu de succès, etc. Bon, ça, j'ai entendu ça quand j'ai travaillé sur l'éco-propriété, où on me disait qu'il y avait seulement 1% des éco-PTZ qui étaient souscrits pour des appartements et 99% pour des maisons. J'ai jamais réussi à trouver les données qui montrent ça. Vous avez mentionné des travaux sur l'éco-PTZ. Est-ce que vous pourriez en dire plus? Et alors derrière... j'avais autre chose à dire. C'est que, du coup, vous donniez une hypothèse d'explication par le manque de compétences techniques des banquiers, en gros. Moi, j'ai entendu une autre hypothèse récemment que je trouvais intéressante. C'est sur, en fait, comment l'État rémunère les banques pour la différence entre le prêt à taux zéro et le prêt qui, normalement, serait contracté. En fait, l'État fait un crédit d'impôt aux banques pour qu'elles distribuent le prêt à taux zéro aux particuliers. Et ça, c'est arrivé en même temps que la crise de 2008. Et donc, les banques ne payant presque plus d'impôt puisqu'elles faisaient plus de bénéfices, du coup, ont freiné la diffusion de l'éco-PTZ, puisque ça ne leur rapportait plus rien. Ce qui n'invalide pas l'hypothèse de manque de compétences, mais qui peut être aussi complémentaire. À vérifier.
Oui, alors moi, je me posais la question de savoir si vous êtes demandé à quoi mène cette labellisation à outrance, comme ça, je veux dire, pour la production de l'espace, pour la production du territoire, hein, je veux dire, où est-ce que ça va? Est-ce que... parce qu'il y a quand même tout un paradoxe, parce que derrière cette labellisation, la politique de la décentralisation qui est promue, etc., en même temps, avec cette labellisation, on a l'impression que c'est l'État qui recontrôle à nouveau toute la production de l'espace, à travers les normes, les standards, les guides, les labels, etc., qu'il impose à l'ensemble des collectivités. Hein. D'autant plus que c'est lui en plus, parce qu'il faudrait que vous rajoutiez quelque chose là-dessus, c'est que lui qui récompense la bonne... les bons comportements par rapport au label. Il y a toute une politique de la récompense, hein, toute une politique de prix, des villes vertueuses, etc., qui est des écocités, des écoquartiers, etc. Chaque année, il y a tout, comme les prix littéraires, maintenant on a les prix des villes, les prix. Et est-ce qu'on ne assiste pas finalement à une sorte de regouvernement à distance? Donc de la part de l'État et de recontrôle à distance de la part de l'État sur cette sur les collectivités. Donc à partir de cette production, cette prolifération de labels. Et bon, et puis d'autre part, l'autre conséquence aussi, c'est que à partir de cette politique de la récompense, est-ce qu'il n'y a pas un territoire à deux vitesses qui se met en place entre ceux qui sont récompensés parce qu'ils arrivent à bien répondre, puis tous les autres, ben, on s'en fiche. C'est les petits, on les laisse. Quoi. Ils sont oubliés. Bon, donc ça contribue effectivement à aller toujours vers toujours plus de métropolisation. Ça. Alors, l'autre question que j'aimerais poser donc à l'autre exposé que j'ai trouvé très intéressant, de savoir si comme économiste, entre ces deux modèles, celui de l'écologie industrielle et celui de l'écologie politique, il n'y en aurait pas un autre. Je dirais, est-ce que vous, les économistes, vous travaillez sur quelque chose qui serait qui permettrait d'échapper à cette dualité, hein, entre la critique complètement complète de la technologie et puis la croyance encore dans la technologie? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modèles, d'autres types? Et puis d'autre part, ce qui nous intéresse, nous, ici, urbaniste, architecte, c'est la problématique de la ville durable. Hein. C'est la question de la ville durable qui est effectivement peut-être quelque chose d'autre à côté du développement durable, même si elle a à voir à faire avec ça. Et quand on parle d'écologie industrielle, d'écologie politique, est-ce que c'est une organisation finalement durable du travail? Ça veut dire quoi? Vous savez que dans la ville durable, les questions qu'on se pose, ce sont ceux de la mobilité durable, ce sont ceux de l'habitat durable, ce sont ceux des loisirs durables. Bon. Et alors, ce dont vous vous occupez, finalement, vous, les économistes, est-ce que c'est ça? Est-ce que l'écologie industrielle propose une certaine forme de travail durable, hein, entre les groupes sociaux? Merci.
Merci beaucoup. Moi, j'ai deux questions pour Alexandre. La première, c'est pour savoir si tu pouvais spécifier les acteurs publics qui étaient en jeu dans tous ces labels que tu as présentés. Est-ce que toutes ces formes de labellisation, de label environnemental, etc., sont portées par quel type d'acteurs publics, même s'ils mobilisent beaucoup d'acteurs publics, le Grenelle, etc., où ça s'appuie sur beaucoup, enfin, sur la mobilisation des acteurs privés, mais quel type, est-ce que c'est uniquement le ministère, mais est-ce que vous avez vu avec d'autres, enfin, les autres labels, je ne sais pas, des agences, d'autres types peut-être d'actions, comme tu évoquais le poids des régions, s'il y avait du coup quel type d'acteurs publics en fait tu pensais, et du coup ce que ça disait sur des formes de recentrement d'État autour de quels acteurs, etc. Et puis, deuxième question qui m'a tout à fait dans la tête, mais quand tu as posé la question, qu'est-ce que ça change sur la question? Sur la question des co-conditionnalités, parce que quand j'en avais parlé en entretien avec des syndicats, justement, d'artisans, ce dont ils craignaient en fait avec. De mesure des co-conditionnalités, c'est qu'en fait ça allait pousser à des phénomènes de concentration entre de groupements d'artisans et que du coup les petits artisans allaient en gros dépérir dans ces mécanismes-là. Et du coup, cette forme de gouvernement de l'économie en gouvernement des filières, comment elle était. comment, qu'est-ce que ça a changé en fait? Est-ce que ça a changé, est-ce que ça a transformé le paysage? Est-ce que c'était pensé comme une politique qui visait à transformer ces segments industriels, peut-être la rendre plus compétitive, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Est-ce que la visée, c'est bien la rénovation des bâtiments ou c'est la transformation d'un secteur industriel ou d'une filière en fait de professionnels?
Bon, alors moi j'ai beaucoup de remarques en fait. Je vais essayer de faire court. Alors, je vais reprendre un peu les différents points. Donc en fait sur les objectifs des labels, oui effectivement, souvent on pense aux enjeux économiques et environnementaux, et puis derrière il y a tout un tas d'aspects qui sont autres. Un des acteurs dont on a finalement peu parlé, ce sont les agences de normalisation et les agences de certification elles-mêmes. En fait, souvent dans les différents travaux, on occulte un peu ces acteurs-là et ça reste un peu des boîtes noires. On voit derrière les normes et les certifications et leur fabrication, on voit souvent un collectif d'acteurs hétérogènes. Alors qu'on a quand même ces acteurs-là qui sont relativement centraux et on perd, je trouve, le fait que la certification en elle-même, le dispositif en lui-même, c'est quand même un objet commercial aussi. C'est-à-dire les acteurs le vendent. Et si on prend un travail sur le franco-choix que vous connaissez très bien aussi, par exemple sur l'impact Afnor qui a montré comment, suite à la baisse des fonds publics aussi de ces agences-là, Afnor a développé sa filiale certification qui lui permettait aussi de développer davantage de ressources propres. Si on prend le cas de la HQE, typiquement c'est STB, donc là ça demande un travail aussi réflexif. Ah oui, mais le CSTB a développé un business énorme financier autour de la HQE, c'est colossal. Et depuis le début, je le montre très bien dans ma thèse, hein, la manière dont ça s'est mis en place, et il y avait clairement l'idée de développer une branche par rapport au fait que les subventions du CSTB soient de plus en plus en baisse. En fait. Et le CSTB, d'ailleurs, n'a rien inventé là-dessus, puisqu'il s'est calqué sur ce qui a été fait en Angleterre par son équivalent, c'est leur Building Research Establishment, qui a fait exactement la même chose, sauf qu'il a fait 15 ans dans le CSTB. En développant la norme BREEAM, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il y a tout un pan de son activité, c'était sous Thatcher. On a tapé, taillé dans les effectifs de manière très lourde. Et ce qui a permis au Building Research Establishment de développer des fonds propres, c'est cette fameuse certification environnementale, BREEAM, qui est l'équivalent de la HQE. Donc là, on voit qu'il y a deux modèles qui sont très proches. Et le CSTB a vraiment capté ces nouveaux marchés sur le tertiaire, c'est arrivé à le monopole. Enfin, il y a un vrai business derrière tout ça, quand même, qui est absolument colossal. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que les acteurs, pour la petite histoire, du CSTB avaient poussé à ce que ça soit très très bas le niveau d'exigence énergétique. C'est-à-dire là-bas, c'était juste 5%, la HQE, c'est-à-dire 5% mieux que la législation, la réglementation thermique, pour que ça ne coûte pas cher aux acteurs. Et en fait, ils se sont fait rattraper par les Suisses avec Minergie qui a commencé à certifier dans la frontière. Et Finergie a été créée par le CSTB aussi, qui s'est mis à côté des régions, pour éviter que la certification d'énergie ne commence à arriver en France. Donc vous voyez comment ces acteurs aussi se mettent en place pour récupérer des marchés. Donc je trouve que ça, c'est des acteurs vraiment importants à regarder de très près. Le deuxième point, c'était la question de la cohérence de l'action publique, ces différentes échelles. Bah, typiquement, si vous regardez la HQE, je vous conseille d'aller voir tout ce qui est SB Alliance et Sustainable Building Alliance, puisque là, on a l'idée de développer un référentiel. Le problème des certifications, c'est vrai qu'elles sont, elles sont proliférantes et en plus, chaque pays a sa certification. Donc le travail de SB Alliance, c'est de regrouper, à la base c'est le Building Research Establishment et le CSTB, de créer un méta-cadre qui permette en fait de créer des convergences et des systèmes de reconnaissance mutuelle entre les différentes certifications. Donc là, on évite justement le bruit un peu et on voit qu'il y a aussi tout un travail politique. Et là encore une fois, qui a créé ce réseau? Les agences de certification elles-mêmes. Donc en l'occurrence, le CSTB et le Building Research Establishment. Donc c'est vraiment des outils aussi très politiques. On est sur des questions de marché. Le but du jeu, c'est de vendre quand même son produit. Sachant qu'il y a eu des systèmes de... Il faut regarder ça avec le CSTB. Il y a eu des systèmes de mutualisation des guichets entre le Building Research Establishment et le CSTB pour éviter de se faire concurrence. Sachant que l'idée du CSTB et de BREEAM, c'était de développer une certification européenne pour contrer LEED, qui est la certification américaine, qui commence quand même à débarquer en France sur le tertiaire, qui commence à faire des dégâts. Donc il y a ce jeu-là à cette échelle, ça serait intéressant de le regarder quand même. Je crois que d'ailleurs il y a Franck Algéry qui travaille aussi sur ces questions-là.
Cyril Boigny aussi.
Voilà. Troisième point, alors l'articulation entre les moyens et les finalités de l'action. Il y a notamment des aspects intéressants sur les dispositifs normatifs, c'est selon s'ils se placent dans une forme plutôt procédurale ou une forme substantive. C'est-à-dire, est-ce qu'un dispositif normatif, il cadre, il prédéfinit des moyens un peu sur le modèle des certifications à points, où dans ce cas-là, les acteurs sont très cadrés par le dispositif, donc ils peuvent difficilement en sortir, ou est-ce qu'on est dans un aspect plus procédural et plus ouvert, type par exemple les normes ISO 9000 ou ISO 14001, où là, on a une forme beaucoup plus souple, donc effectivement, on peut complètement transformer un peu la trajectoire. Enfin, dans la mise en application, la norme peut revêtir différents résultats. Donc, je trouve que c'est intéressant de travailler sur ça, sachant qu'il y avait un article de Ségrestin en 1997 dans la RFS où il montrait comment on rentrait plus dans un cadre procédural. Moi, j'aurais tendance à dire exactement l'inverse de Ségrestin, mais on serait plutôt dans un retour, en tout cas dans les normes du bâtiment. On est vraiment, pour moi, dans le retour d'une normalisation très substantielle. Si on prend les normes américaines VID ou la norme anglaise BRIM, on va vers un modèle de certification en points. Où là, vraiment, vous avez, par exemple, votre bâtiment, vous faites un garage à vélo, parce que ça permet aux gens de venir à vélo. Vous avez deux points, vous mettez des douches, ça va encourager les gens à prendre leur vélo, parce qu'après, il faut se laver. Donc, vous allez avoir un point en plus. Vous voyez. Donc, il y a vraiment des fois où on a des références très resserrées. Deuxième aspect aussi, qui sur la question de l'articulation entre moyens et finalité, c'est toute la question de l'intervention et la sous-traitance à des prescripteurs. Donc là, vous avez par exemple les fameux assistants à maîtrise d'ouvrage HQE. Donc ces prescripteurs-là aussi peuvent jouer un rôle dans la mise en application de dispositifs normatifs. Donc là, je trouve que ça serait intéressant de regarder ces choses-là. Je fais très vite, mais on pourra en reparler beaucoup plus amplement plus tard. Alors, articulation, fiscalité de la législation environnementale. Alors moi, c'est comme Gilles le disait, moi aussi, je pensais aux assureurs. J'avais fait un tout petit truc dans ma thèse là-dessus, mais ça serait simple, pas mal de le développer peut-être plus. Le problème d'un assureur, typiquement, quand il assure un bâtiment, c'est qu'ils ne peuvent pas forcément faire de screening négatif, c'est-à-dire que c'est difficile pour eux de refuser des clients, vous êtes obligé d'être assuré. Par contre, ils peuvent essayer de faire une forme de screening positif, c'est-à-dire attirer vers eux les bons clients, c'est-à-dire les gens, a priori, qui auront des immeubles avec moins de sinistres. Et l'HQE avait utilisé par un assureur qui s'appelle Generali, notamment, dans l'idée de se dire, justement, vu qu'on ne peut pas faire éviter les mauvais clients, on peut attirer les bons clients. Et donc, le pari de cet assureur généraliste, c'est de faire des ristournes dans les primes d'assurance des immeubles pour les immeubles qui étaient certifiés HQE. D'accord ? En se disant, puisqu'ils sont certifiés HQE, a priori, ce sont de bonne qualité, donc il y aura moins de sinistres. Et donc, on va essayer de récupérer comme ça les bons clients. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des liens assez forts entre, oui, primes d'assurance ou questions financières et labellisation. Alors, SMA-BTP, pour la petite histoire, n'avait pas voulu le faire parce qu'ils se sont dit non, en fait, le problème aussi des certifications HQE, etc., c'est que ça peut pousser à des innovations technologiques, et le principe d'innovation, c'est qu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas assez de recul pour savoir ce que ça va donner. Donc, eux, à la limite, ils se demandaient si ça ne pouvait pas créer aussi des nouveaux sinistres. Puis, qu'est-ce qui se passe si le bâtiment certifié HQE, il ne tient pas ses promesses? Est-ce que les assurés vont se retourner contre qui, quoi, etc. Bon, cela dit, l'agence de certification est assez couverte puisqu'ils ont des obligations de moyens mais pas de résultats. Donc ça ne pose pas forcément de soucis. Et toujours sur ces questions de. Alors sur l'éco-conditionnalité, en fait, par rapport à. J'ai fait court. Par rapport à la demande des.
C'est une troisième conférence, en fait.
J'avais dit qu'on parlait sur le contrôle.
Oui, contrôle. Alors moi, ce que j'avais regardé aussi, c'est la manière dont les certifications circulent. On peut le regarder par rapport aux politiques de la ville. Et bon, ça, c'est des travaux aussi que j'ai en cours. Je suis en train de finir un truc là-dessus. C'est sur les nouvelles exigences. Ces certifications-là, elles sont vues comme des dispositifs volontaires, alors qu'elles le sont de moins en moins. Dans les politiques de la ville, de plus en plus, on prend une ville comme Paris, par exemple, on arrive petit à petit quand même à une obligation d'aller vers des démarches HQE. Alors, une ville ne peut pas contraindre un promoteur à certifier son bâtiment HQE, mais elle peut l'obliger à respecter un certain nombre de principes HQE. Et du coup, les promoteurs préfèrent se payer une certification HQE plutôt que d'appliquer les règles. Ça va leur coûter de façon chère, donc autant aller jusqu'au bout. Donc, on a des processus où finalement, l'aspect volontaire de la certification est de plus en plus critiquable. On arrive finalement à... Ça devient un point de passage obligé, en fait. Donc là, j'avais pas mal de trucs sur ça. Et juste sur la typologie, dans l'intro de ma thèse, j'avais aussi essayé de créer une typologie autour de ces aspects-là. Alors, il y a toujours un problème avec les typologies, parce qu'en fait, on dit souvent qu'en fait, un label ou une certification, c'est un standard qui a réussi. C'est-à-dire, dans les comités de normalisation, on part pas d'une page blanche, en fait. J'avais rencontré pas mal de gens au moment de... des membres en fait qui pilotaient tout ce qui était à l'AFNOR autour de la normalisation environnementale dans les bâtiments. Ils me disaient non, on va pas partir d'une page blanche, on part de choses qui ont déjà été digérées par les marchés, par les acteurs. Donc en fait, un standard devient très souvent une norme. Et c'est ce qui s'est passé avec l'HQE. L'HQE était un standard qui est devenu à la fois une certification et une norme. Bon, je vais m'arrêter là.
On va s'arrêter là, parce qu'il faut qu'il réalise le temps de répondre.
Oui. C'était plus des remarques en fait que des...
Non, mais il y a eu d'autres questions avant, donc je...
Moi, je vais juste intervenir 20 secondes. J'avais deux questions à Arnaud Dimmer. Donc, qu'est-ce qu'il entend par défi du développement durable? Parce que apparemment, sur les tableaux, il était marqué défi du développement durable. Je ne sais pas exactement. Est-ce que c'est des défis environnementaux? Ou est-ce que c'est quelque chose qui serait propre au dispositif développement durable, mais qui n'est qu'un dispositif qui tente de répondre à des problèmes environnementaux? Donc j'aimerais savoir ce qu'il met derrière. Ensuite, moi, il se trouve que je suis chercheur ici, mais j'enseigne à Dunkerque. Et Dunkerque aurait pu être présent, j'ai vu qu'il y avait Christophe Bourin qui était marqué, vous l'avez dit oralement. Et en fait, donc Christophe Bourin qui travaille en écologie industrielle, travaille donc sur cette ville, et cette ville a eu le label européen en 96, je crois, parce qu'elle correspondait exactement à ce modèle-là. Aujourd'hui, Christophe Bourin est beaucoup plus critique par rapport à cette expérience-là, parce que finalement, ces modèles-là ne peuvent fonctionner, enfin en tout cas c'est sa conclusion, et en tout cas sur Dunkerque, je le rejoins assez, ne peuvent fonctionner qu'en période de croissance économique, de bon état de l'économie. À partir du moment où on est en état de crise, à Dunkerque, par exemple, c'est Arcelor qui fournit l'énergie dans tout le dispositif. Le jour où Arcelor s'en va, tout se casse la figure. Et donc, évidemment, dans ce cadre-là, cette espèce de coopération où tout le monde participerait, où les intérêts seraient mis de côté, finalement, c'est du win-win. On voit que finalement, ce n'est pas tout à fait l'idéal qui était décrit.